Un chiffre d'abord, une précision, notre débat ne concerne pas la menace militaire nucléaire dans cette guerre, mais la menace bien sur le nucléaire civil. On rappelle que l'Ukraine est le 7e plus gros producteur d'électricité nucléaire au monde, et c'est le chiffre du jour. L'Ukraine dispose de 4 centrales nucléaires en activité, elle compte en tout 15 réacteurs qui fournissent la moitié de l'électricité du pays, et avec 6 réacteurs, Zaporijjia est la plus grande centrale nucléaire d'Europe, elle fournit 20% d'électricité du pays. Car Interview, c'est Zaporijjia, enfin un bâtiment administratif à côté de la centrale qui a été bombardée. Si jamais, c'est un peu la question que tout le monde se pose, l'obus avait atteint un réacteur, que se serait-il passé ?
Alors, difficile à dire, hein, ça dépend de quelle est la partie de l'installation qui est endommagée par l'obus. Il faut savoir que l'enceinte de confinement, ces bâtiments qui sont surmontés d'un dôme, c'est ce qui contient le cœur du réacteur et également la piscine qui contient les combustibles usés, donc qui ont servi un temps à produire de l'électricité dans le cœur du réacteur et qui sont ensuite déchargés dans cette piscine. Et donc ce dôme en béton.
Et la protection
est une protection à la fois pour l'environnement et les populations contre les émissions de produits radioactifs en cas d'accident à l'intérieur, mais aussi une protection vis-à-vis de l'extérieur. Maintenant, elle a un dimensionnement, elle résiste à la chute de certains avions, elle ne résiste pas à tout.
Pierre Arroche, dans quel état sont les centrales nucléaires ukrainiennes ? On a en tête l'histoire de Tchernobyl qui n'est donc plus en activité. Les autres sont comparables aux centrales françaises ou européennes ?
Ouais, je pense qu'effectivement, c'est plutôt une question à vous poser à vous. Moi, ce que je peux dire, c'est effectivement l'intérêt stratégique, militaire que ça peut représenter. C'est un vrai sujet, la protection des centrales nucléaires. C'est un sujet également en France. Généralement, ce qu'on envisage, c'est plus le risque terroriste, en réalité, que le risque d'un envahisseur. C'est une question qui s'est beaucoup posée au moment du 11 septembre. On anticipait, puisqu'on anticipait que des avions soient pris en otage,
puissent être projetés,
voilà, et soient projetés sur des centrales nucléaires. Alors, pourquoi est-ce que c'était plus un enjeu pour les terroristes ? Parce qu'on se disait, pour des terroristes qui ont a priori pas grand-chose comme moyen, alors ils prennent en otage un avion, ça démultiplie complètement leur effet, c'est-à-dire qu'ils créent une catastrophe nucléaire. Alors qu'à l'origine, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Pour un envahisseur comme la Russie, qui a beaucoup de moyens, la question est très différente. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas besoin, a priori, de ces techniques de contournement pour avoir un impact en Ukraine. Et à l'inverse, il y aurait des effets négatifs pour eux. Le premier, c'est qu'ils ont des troupes sur place. Faire un accident nucléaire, ce n'est pas une frappe chirurgicale, ce n'est pas c'est pas un outil précis. Donc, ils auraient des troupes qui seraient évidemment les premières concernées. Ils ont aussi leur territoire, la Russie, qui est très proche.
Pourquoi ce missile qui tombe à côté d'une centrale nucléaire et cette opération militaire autour de cette centrale ?
Ah ben donc là, on était dans une opération militaire. Il souhaitait rejoindre de Mykolaïv pour joindre les troupes de Crimée vers le Donbass. C'était ça l'opération. Et de contrôler, bien entendu, ce site électrique de centrale nucléaire. Mais ce que moi j'observe, c'est que la prise de cette centrale de Zaporijjia, ça a été une prise sauvage. C'est-à-dire que...
Que vous appelez par prise ? Qu'est-ce que vous entendez par prise sauvage ?
Eh bien, on a vu que, en tout cas, ça a été le compte-rendu de Kotine, le directeur de cette centrale, que, eh bien, d'abord, c'était des Russes et des Tchétchènes, des combattants tchétchènes. Mm-hmm. Ensuite, que le directeur de cette centrale nucléaire, il parlait avec des soldats derrière lui, avec des Kalachnikov. Donc, c'est quand même... C'est pas comme ça qu'on peut diriger une centrale nucléaire, même si c'est civil, ça reste quand même très dangereux. On a appris aussi, en tout cas c'est l'AIEA qui l'a dit. L'Agence de l'énergie atomique, que à Tchernobyl, il n'y avait pas de relais du personnel de sécurité. Mm-hmm. Ils ne peuvent plus communiquer que par des emails. Mm-hmm. Donc ça, en termes d'urgence, c'est dramatique. Que les circuits téléphoniques sont aussi coupés. Et donc, voilà, c'est pas comme ça qu'au XXIe siècle, on peut imaginer une sûreté des centrales nucléaires. Et c'est ça qui m'inquiète, c'est que c'est une guerre sauvage. On a appris ce matin qu'il y a eu un missile qui est tombé aussi sur un institut de recherche nucléaire à Kharkiv, avec un réacteur qui s'y trouvait. Donc, voilà, même s'il n'y a pas eu de radiation, manifestement, qui ait été observée...
Mais ces deux missiles, c'est une volonté d'intimidation, c'est une volonté de créer la terreur pour l'Occident, c'est...
Pour moi, c'est une guerre sauvage. C'est-à-dire qu'ils avaient des buts de guerre. Ils avaient, on le savait, ce blitzkrieg vers Kiev qui n'a pas abouti. On voit que ces troupes ne sont pas aussi excellentes qu'on l'imaginait. On voit qu'il y a des missiles qui se perdent dans la nature.
Ça n'est pas volontaire, selon vous.
Pour moi, c'est une guerre sauvage avec... alors ensuite, que ça soit volontaire ou pas volontaire, c'est une guerre, et c'est donc extrêmement dangereux.
Alors, on va revenir avec Nadia sur les conditions de travail de personnel des centrales nucléaires. Ouais, que vous avez commencé à évoquer, Antonin Jakovski.
Exactement, des conditions qui vont à l'encontre d'un des 7 piliers de la sûreté nucléaire. Celui qui veut que, j'ouvre les guillemets, la direction et le personnel d'une centrale doivent pouvoir s'acquitter de leurs tâches dans des conditions stables, sans interférence ou pression extérieure. C'est ce qu'a rappelé l'ONU il y a quelques jours. Or, ça n'est plus du tout le cas, visiblement, en tout cas, pour ce qui est des sites de Tchernobyl et de Zaporijja. Parce qu'à Zaporijja d'abord, donc, habituellement, le site emploie 11 000 personnes. Aujourd'hui, les équipes ne compterait que 800 personnes à peine pour une maintenance qui doit se faire 24 heures sur 24, mais beaucoup plus grave. Habituellement toujours, ces équipes, elles changent. Il y a des systèmes de rotation, elles changent toutes les 8 heures. Maintenant, c'est toutes les 12 heures. Donc on imagine évidemment l'état d'épuisement et de stress de ces équipes. Ça n'est pas tout, puisque ce personnel, il est aussi entravé dans ses différentes missions. Ça aussi, ça a été rappelé. Les opérateurs techniques doivent maintenant quasiment systématiquement demander l'autorisation aux militaires russes pour pouvoir effectuer certaines opérations. Ce que le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, a qualifié de gravissime. Il était extrêmement énervé dans ses prises de parole. Il s'est également inquiété du fait que, vous le disiez également, que le personnel ne peut quasiment plus communiquer avec l'extérieur. Les liaisons ont été coupées par téléphone, par mail et même par fax. Pendant 24 heures, ils n'ont tout simplement pas pu communiquer. Car interview, jusqu'à quand est-ce que ça peut durer? Est-ce que ça signifie pas que ce qu'il faut redouter, finalement, c'est l'accident que ça peut générer? Alors, ce type de situation,
c'est effectivement une situation très préoccupante. Hein. Les opérateurs d'une centrale nucléaire, pour travailler correctement, ils ont besoin d'avant toute sérénité, de communiquer entre eux. Donc effectivement, on imagine l'état de fatigue, l'état de stress dans lequel ils sont, la pression. Hein. Donc effectivement, c'est une de nos craintes également. Ils tournent effectivement en 2-12, c'est-à-dire deux équipes qui se relaient. Je ne sais pas s'ils ont l'occasion de sortir du site. Ouais. Il semble que non. En tout cas, voilà, on n'est pas sur place, on n'a pas ces informations.
Il ne peut y avoir aucun observateur.
À notre connaissance, non. L'autorité de sûreté ukrainienne nous donne les informations et en donne effectivement régulièrement à l'Agence internationale pour l'énergie atomique, mais on n'a pas d'informations vraiment sur l'état des troupes, j'allais dire, des personnes qui...
Du personnel
de la centrale, qui ont avant tout besoin de sérénité pour faire correctement leur travail. Donc effectivement, on n'est pas à l'abri d'une erreur ou du fait de l'état de fatigue très important.
Est-ce que l'AIEA, l'Agence internationale d'énergie atomique, a des leviers? Est-ce qu'elle peut aller visiter ces centrales? Est-ce qu'il y a des règles internationales? Vous me direz qu'ils peuvent ne pas être respectés, mais qui existent dans des cas concrets comme celui qu'on vit.
Bah, ça, c'est à voir avec la Russie. C'est-à-dire qu'effectivement, la Russie peut autoriser ou ne pas autoriser les visites de l'AIEA. Il y a eu des signaux qui ont été envoyés de la part du président Poutine en disant qu'il se voulait rassurant, il voulait autoriser ce genre de visite, etc. Maintenant, ce qu'on sait aussi, puisque je ne veux pas non plus donner l'impression que si la Russie n'a pas intérêt à provoquer un incident, ça veut dire qu'elle est totalement de bonne foi et qu'il faut se fier à leur parole. On sait aussi que pour Vladimir Poutine, en particulier aujourd'hui, tout est l'objet d'un rapport de force. Donc tout peut être monnayé, tout peut être l'objet d'une pression. Alors, donc ça rend la question beaucoup plus délicate.
Le président Zelensky a dit que c'était sans précédent que dans un conflit militaire moderne, il y ait comme ça une prise de centrale nucléaire. Ça n'est pas arrivé dans les... Le président ukrainien, pardon. Ça n'est pas arrivé dans les conflits récents. Il n'y a pas d'exemple récent.
Il y a eu quand même des exemples de conflits qui ont impliqué des centrales nucléaires, mais de façon différente. Il y a un exemple très connu, c'est Israël qui a bombardé une centrale nucléaire en Irak en 1981, la centrale d'Ozirak. C'était pour empêcher le développement du programme, mais c'était à un stade suffisamment précoce pour que ça élimine le programme sans faire de dégâts. Et l'enjeu n'était évidemment pas de causer une catastrophe. Donc c'est un enjeu. Il y a eu aussi un enjeu autour du nucléaire iranien, où il y a eu une attaque cyber de la part des États-Unis et d'Israël, de ce qu'on pense, le virus Stuxnet qui a été envoyé sur le programme nucléaire iranien pour le stopper, là encore. Donc
Mais rien de similaire à ce qui se passe en ce moment.
Voilà, c'est généralement de cet ordre, c'est-à-dire stopper un programme avec une idée que ce programme pourrait conduire aussi à des visées militaires, etc.
Claude Vincent.
Antonin Arjakovski, la catastrophe nucléaire de Tchernobyl qui est dans l'imaginaire de tous les Ukrainiens, ajoute en plus à la crainte qui est née avec les tirs de ce missile sur le bâtiment administratif à côté de la centrale de Zaporijjvia.
Oui, et puis pour les Européens aussi, parce qu'on connaît la série Tchernobyl qui a été faite il y a quelques années sur ce qui s'est passé à Tchernobyl et qui explique qu'on était à 48 heures d'un incendie sur le deuxième réacteur qui aurait eu des conséquences encore plus dramatiques sur toute l'Europe et pas uniquement sur l'Ukraine. Et c'est pour ça que c'est un point important, c'est que le ciel ukrainien est le ciel européen et que ce qui se passe en Ukraine concerne toute l'Europe. On a tendance aujourd'hui à dire... C'est pas notre guerre, ça nous concerne pas, c'est la drôle de guerre.
De moins en moins, il y a très peu de gens qui continuent à dire que c'est loin, justement.
Le Drian dit on n'est pas en guerre. Et c'est, voilà. Alors que le ciel européen, c'est le même. Et donc, c'est pour ça que moi, à titre personnel, j'insiste sur le fait qu'on ne peut pas rester l'arme au pied. Il faut aider les Ukrainiens à protéger leur ciel. Et si ce n'est à envoyer des chasseurs français, en tout cas de livrer des MiG à l'Ukraine pour leur permettre de protéger leur ciel. Parce que là, encore une fois, cette guerre-là, c'est pas du tout une guerre soignée, c'est une guerre sauvage et qui peut toucher des sites nucléaires. Donc c'est urgent. Pour l'instant, il y a des aéroports en Ukraine occidentale qui pourraient recevoir ces chasseurs occidentaux, mais bientôt peut-être plus.
Une réaction à ce que vous venez d'entendre?
Oui, la décision qui a été prise par l'OTAN de ne pas faire de zone d'exclusion aérienne, elle s'explique très simplement, c'est que la position de l'OTAN, c'est qu'il ne faut pas s'engager dans une escalade avec la Russie. Il ne faut pas prendre la responsabilité de surélever le conflit et il ne faut pas prendre la responsabilité d'engager un conflit direct avec une puissance qui est une puissance nucléaire. Et comme une zone d'exclusion aérienne, ça reviendrait in fine à cet affrontement. On a exclu cette option. Il y a eu la question, effectivement, est-ce qu'il faut livrer des avions? Ça a été posé. Il y a quelques pays qui sont compatibles parce qu'ils ont du matériel qui est semblable à celui sur lequel opèrent les aviateurs ukrainiens. Pour l'instant, la décision qu'ils ont prise, c'est qu'ils ne voulaient pas le faire. Donc, c'est aussi... On est toujours obligé de peser des facteurs multiples. Il y a effectivement l'aide qu'on veut apporter. Et puis aussi, on ne veut pas non plus une escalade.
Alors, faites-nous écouter un correspondant de Telegraph.
Un élément concret qui illustre cette tension, c'est ce à quoi assistait le correspondant de Telegraph, c'est-à-dire la distribution de diodes. C'était à Zaporijjvia. On le regarde.
Ils distribuent de l'iode. Regardez par ici. Vous venez, vous renseignez votre nom et la distribution est gratuite. Là, nous avons les comprimés, juste en bas. Vous prenez la moitié d'un comprimé tous les jours. La dose, c'est un demi-comprimé par jour. Et l'idée est qu'il protégera votre thyroïde, qui est la glande, on le sait aujourd'hui, qui absorbe la majorité des émissions radioactives.
Karine Hervieux, beaucoup d'Européens ont découvert avec cet événement ces comprimés d'iode. Alors, quelle est leur utilité? Comment fonctionnent-ils? Pourquoi sont-ils distribués?
Alors, les comprimés d'iode permettent de saturer la glande thyroïde en cas d'accident nucléaire, de façon à ce que la thyroïde soit saturée avec de l'iode stable et que l'iode radioactif, si elle est inhalée ou ingérée, ne vienne pas se fixer sur la thyroïde. Ça a causé, après l'accident de Tchernobyl, de nombreux cancers de la thyroïde, notamment chez les enfants, qui sont les plus sensibles. Il faut rappeler que ça ne sert à rien de prendre un comprimé d'iode avant qu'il y ait un accident. Il faut le faire sur instruction des autorités. C'est très important. Et je voudrais rappeler qu'en France, autour des centrales nucléaires, les comprimés d'iode sont prédistribués sur une distance de 20 km. Mais ce sont bien des comprimés à prendre uniquement sur instruction. Ce n'est pas du préventif. Ça ne sert à rien de prendre des comprimés d'iode tant qu'il n'y a pas d'accident.
Et donc là, c'est du curatif, cette distribution de 2 millions
et demi. Non, ce n'est pas du curatif. Alors... Il n'y a pas de rejet aujourd'hui enregistré. On surveille quand même au niveau des stations disponibles, des stations de mesure de la radioactivité dans l'air, il n'y a pas de rejet radioactif aujourd'hui, il n'y a pas d'accident.
Y compris à Tchernobyl, malgré le passage des convois, on n'a pas mesuré.
Y compris. Alors, il y a eu des augmentations sur certaines stations qu'on n'arrive pas bien à comprendre. Mm-hmm. L'autorité de sûreté ukrainienne dit que c'est les chars russes qui ont pu remettre en suspension. Honnêtement, il y a eu beaucoup de dysfonctionnements sur ces balises, donc on ne sait pas quelle est vraiment l'origine.
Pierre Arroche.
Oui, Pierre Arroche, une question sur les Ukrainiens qui vont être isolés, sans électricité et qui vont être mis à genoux. Est-ce la stratégie de Vladimir Poutine qui expliquerait ces faux, vrais accidents autour des centrales?
Je dirais que, de toute façon générale, que ce soit une centrale